Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Louis.
Au début, tout à fait au début, je voulais pas raconter. Ma mère, elle me défendait, elle me disait, faut pas parler comme ça. Ne raconte pas tout de même que t'as été torturé, tout ça. Faut pas être mauvais.
Clara Fischer, née à Paris en 1928, a été déportée à Auschwitz-Birkenau en 1944, à l'âge de 16 ans. Si elle est revenue des camps, c'est poussée par sa sœur, par d'autres femmes qui lui disaient de survivre, car ne voulait-elle pas revoir sa famille? Et c'est ce désir-là qui l'a fait tenir, qui lui a fait braver la peur des chambres à gaz, la faim, l'épuisement et la violence. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas, écrit Primo Levi en exergue de Si c'est un homme, son livre témoignage sur les camps. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Dans cette mini-série Ne l'oubliez pas, Élise Azogi-Burlak s'interroge sur ce qu'il reste aujourd'hui de la parole des déportés et vous fait entendre quatre de leurs récits. Clara Fischer témoigne, à 92 ans, pour la première fois pour le public. Je suis Charlotte Pudlowski. Bienvenue dans Fracas.
Je suis Madame Fischer Clara. Je suis née le 8 mai 1928 à Paris 12e. Je suis une fille Seligman. Ma mère était russe, mon père polonais. Il s'est marié avec ma mère à Berlin. Mon frère était né à Berlin. Et en 23, ils ont quitté Berlin parce que ça allait déjà très mal dans le travail. Alors, ils sont partis à Metz. Pourquoi? Parce qu'on parlait l'allemand. Avant la guerre, en Lorraine, on ne parlait pas le français. On parlait que l'allemand. C'est depuis après la guerre qu'on parle français. On habitait Metz, mais après, entre-temps, on est partis à Paris. Parce que les affaires marchaient très mal. On n'était pas malheureux. On n'était pas milliardaires, mais on n'était pas malheureux. Et on habitait rue de Bretagne dans le troisième, un trois pièces, bien, très beau, grand, très beau. Mais malheureusement, on l'a pas récupéré. J'avais une vie gaie, une vie familiale. J'étais très contente de ma vie. À l'âge de 13 ans, on est parti à pied jusqu'à Orléans parce qu'on bombardait. On n'arrêtait pas de dire, à Orléans, tout va bien se passer. Ça sera la zone libre. On ne sera pas embêté des Allemands. Total, on est arrivé là-bas. Les Allemands, ils étaient tous alignés. Alors, on a rebroussé chemin. On est revenu sur Paris. Et ensuite, on est parti à Lyon. En 40, nous sommes partis à Lyon. Mon frère, ma sœur et mes parents et moi. 5 personnes. C'était la zone libre. Nous sommes arrivés à Lyon, on a pris un appartement qui était, on n'était pas déclaré. À la Croix-Rousse, je me rappelle comme si c'était hier, rue Payron, numéro 7. Bon. Et on est resté 2 ans. Mais, qui repose en paix mon père. Mon père, on aurait pu rentrer en Suisse en 40. On laissait rentrer encore. Mon père avait une confiance aveugle aux Allemands parce qu'il a vécu en Allemagne, mon père. Quand il allumait le poste anglais où De Gaulle parlait, alors mon père rigolait, oh, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Naïf, naïf. La première ave de Lyon, on l'a emmené à Gurs, le camp de Gurs. Ma mère et ma sœur est allées tout de suite et mon frère le voir là-bas et demandaient à des gens là-bas si on peut pas payer pour le faire sortir de là-bas. C'était impossible. Il est parti sur Drancy et lui, il a pas abouti. À Birkenau, il est allé à Treblinka, aussi le camp de la mort. Alors il y a un monsieur qui est revenu de là-bas Il nous apporte un bonjour de mon père. Il s'est laissé mourir. 6 semaines, il a vécu. Quand ma mère a vu qu'on arrêtait mon père, elle a dit non, on part à Nice. À Nice, il y avait des Italiens. Et tant qu'il y avait les Italiens, c'était le rêve à Nice. On avait une vie, un rêve. On était à la plage tous les jours, on mangeait bien, c'était très bien. Quand les Allemands sont arrivés à Nice, on est parti à Grenoble. À Grenoble, on est resté peut-être 3 semaines. Hein, on était avec des amis dans le même immeuble, des gens de Metz que nous connaissions. Et ça n'a pas été. Alors on a été obligé de partir de là à Toulouse. Et à Toulouse, place du Capitole, il y avait un café. Tous les Juifs, l'après-midi, dans ce café. Et nous, on avait un petit appartement pas déclaré, que la gardienne savait que nous n'étions pas déclarés. Et il y avait une Espagnole là-bas. Une Espagnole qui était mariée avec un Juif algérois, M. Benamou. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord dénoncé son mari, et ensuite 37 familles juives, nous y compris. Quand on nous a arrêtés, les 3 enfants, nous sommes allés à la prison Saint-Michel. Moi, j'étais la plus jeune. Mon frère, l'aîné, et ma sœur, au milieu. Tous les 3, on a été pris à la même minute. Ma mère, elle a entendu qu'on nous a arrêtés. Elle est allée à la prison Saint-Michel. Elle a sonné à la prison Saint-Michel. Il y a un Allemand qui ouvre la porte. Alors, elle dit, voilà, je suis la maman des 3 enfants. Je veux qu'on m'arrête. Parce qu'elle parlait en allemand, ma mère. Qu'est-ce que vous croyez qu'il lui a dit? Elle sort d'ici, vieille folle. Il l'a foutu dehors, et il y avait un café de résistants en face. Ils l'ont attrapé, ils l'ont caché pendant 2 ans chez un maire d'un village à côté de Toulouse. Et elle a été sauvée comme ça. Quand on est arrivé à la prison Saint-Michel, on s'est dit, ça y est, c'est la fin pour nous. Ça. Et en fin de compte, c'était pas encore la fin. Hein, on est resté là, on est resté à Drancy. Après, on est parti en transport à Birkenau. Oh, ce train. Je n'oublierai pas ce train. Les wagons à bestiaux. Sans eau, sans rien. Et un bac pour les besoins. Ça puait comme je ne sais quoi. Déjà, rien qu'en arrivant déjà à Birkenau, on était déjà des déchets. Il y avait des morts dans le wagon. Hein. Puis quand on est arrivé à Birkenau, moi, j'avais des cheveux jusqu'ici. Moi, je suis rentré la première pour raser. Et quand je suis ressorti de... Alors, naturellement, les copines, elles m'ont vu, celles du wagon. Elles m'ont dit, Clara, tes cheveux. J'ai dit, on les a rasés. Alors, l'arrivée, c'était ça, et c'était la tondeuse. Mais heureusement qu'on nous a rasés. Il y avait plein de poux, les gros poux de corps. C'est heureusement qu'on nous a rasés. Avoir des poux, c'est l'horreur, ça. C'est l'horreur, ça. Et on est resté 40 jours dans une baraque sans sortir de travailler. Ça, c'était la punition, il fallait qu'on arrive, fallait qu'on soit en quarantaine à l'arrivée. Et après, j'ai travaillé dehors. Je voyais en face des hommes aussi. Je voyais les déchets mais ils étaient des loques. Ma sœur m'engueulait du matin au soir, de toute façon. Parce que je disais toujours, ma sœur, tu sais, dis-moi, à quoi ça sert cette vie? Moi, je porte des pierres sur mes épaules et je les mets sur des wagons. Jusqu'à quand on va faire ça? Tu crois pas qu'il vaut mieux qu'on meure? Qu'est-ce qu'on a de cette vie-là? Alors, elle arrêtait pas de dire, tu veux pas revoir ton frère et ta mère et ton père? Ah, j'ai dit, oui, ça, oui. J'ai survécu, vous savez pourquoi? Parce que je voulais revoir ma famille. Parce que moi, dans ma vie, c'était ma famille qui comptait. J'ai beaucoup souffert de l'affaire. Ah, ça. Ça a été horrible. Parce que à Birkenau, on avait le droit, vous voyez, un tout petit carré comme ça de pain. Et il y avait du bromure. Pourquoi du bromure? Pour ne pas qu'on ait notre cycle. Parce que si on avait encore notre cycle, mais ça aurait été une catastrophe. Elles étaient pires que les hommes, les SS. Parce qu'elles étaient méchantes. Vous ne pouvez pas savoir. Un jour, j'avais des colis à en crever. Et on n'avait pas le droit de sortir après 8 heures. Si on sortait, on était bonne pour aller au four crématoire. Moi, j'ai dit à ma sœur, tant pis. Je veux mourir, mais je veux aller aux toilettes. Moi, je peux pas rester comme ça. En fin de compte, j'ai ouvert la porte de ma baraque et j'ai couru en face aux toilettes. J'étais soulagé. Mais au retour, je suis tombé sur une SS avec un chien comme ça. Elle m'a donné des coups de bâton. D'ailleurs, j'ai toutes mes cicatrices sont là. Ben, sans arrêt. Elle était mauvaise. Mais J'étais en sang. Et ma sœur, comme elle voyait que ça, on n'avait pas de monde, mais elle disait, mais c'est drôle. Elle est si longtemps partie. Elle a entrouvert la porte de la, elle m'a vu. Et croyez-moi, j'ai saigné, hein. Parce que la tête, ça, on saigne beaucoup, hein. Et là, elle m'a ramassé. J'étais dans un triste état, hein. Le lendemain, j'ai même pas pu aller travailler. On m'a caché dans la baraque. Les gens sont méchants quand on vit dans la misère. Moi, j'ai eu la chance parce que j'avais deux amis de ma mère. Ça a été le bonheur de ma vie, ça. Parce qu'elles m'ont aidé. Elles m'ont aidé, ces femmes. Elles étaient déjà arrivées peut-être 6 mois avant moi. Très gentilles. Très, très gentilles. Et alors, une fois, j'ai eu la furonculose avec des boutons comme ça. Alors, elles m'ont dit, toi, si tu sors dehors quand on va te compter, tu peux être sûr, tu rentres au four crématoire. Elles m'ont caché. Elles m'ont massé sans arrêt les jambes. J'avais des jambes, des poteaux, j'avais. Il y en avait une, Mala. Elle s'est échappée avec un Polonais, elle. Une déportée d'Anvers. Elle s'est évadée. Et c'est des Polonais qui les ont dénoncés tous les deux. On les a ramenés au camp. Et alors, d'un seul coup, au milieu du camp, on met un estrade. Et on met des trucs pour pendre. Tout le monde savait qu'elle s'était évadée. C'est bien, on se raconte entre nous, hein. Et d'un seul coup, on siffle, on dit « Tous les déportés autour !» On est autour, d'un seul coup, on voit arriver Mala. Ah là là, c'était pour la pendre. Mais ils n'ont pas eu cette chance, parce qu'elle s'est ouvert les veines. Les Boches voulaient qu'on voit la fin d'une femme qui s'est évadée avec un... Lui aussi, il a eu la même fin, le Polonais. Et sans arrêt, on voyait le four crématoire où ça brûlait sans arrêt. Et à un moment donné, il manquait de gaz. Et alors, naturellement, on a pris tous les déportés, on a creusé des fossés. Et les camions sont arrivés avec des enfants, ils les ont tous mis dedans, et on les a brûlés à vif. Et on entend des cris du matin au soir, des enfants. Et après, il y a eu la marche de la mort aussi. On a crevé de froid en cours de route. Et celle qui ne pouvait pas marcher, on l'a fusillée. Et moi, j'ai même dit à ma sœur, j'ai dit, allez, je veux qu'on me fusille, je ne veux pas vivre. Moi, vivre comme ça, je ne veux pas. Comme ma sœur était à côté et elle avait une copine, Georgette, qui habitait Montpellier, elle disait, Clara, tu marches. Hein? Et alors, méchante. Hein? Et comme j'étais beaucoup, très sensible, alors je me mettais à pleurer et je disais, ah non, non, partez-vous, moi, je reste. Ma sœur, quand elle a entendu que je veux rester, elle a dit, mais hors de question, qu'est-ce que tu racontes là maintenant? Viens avec nous. Alors, elles m'ont traînée toutes les deux par la main. C'est ce qui m'a sauvée. Sinon, jamais je serais revenue. Jamais je serais revenue. Et arrivé à Ravensbrück, la première fois, on a crevé la faim. On a crevé la faim à Ravensbrück. Et en fin de compte, on est resté quelques semaines à Ravensbrück. Et d'un seul coup, on siffle toutes les Françaises 5 par 5. J'ai dit, ça y est, on va nous emmener dans un four. En fin de compte, non. On nous a emmenés dans un petit camp à côté de Berlin où on est resté là-bas. J'ai attrapé le typhus. Et figurez-vous qu'une Allemande, une Boche, elle m'a donné des médicaments pour ma malaria. Et ça m'a guéri, sinon j'aurais jamais tenu le coup. Et après, je suis resté quelques semaines là-bas dans ce petit camp, Reichling. Des bus entiers sont venus. On nous a mis des couvertures. Je faisais 33 kilos. Hein. J'ai fait 33 kilos, moi, quand j'étais libéré. Et alors, quand on est rentré dans le bus, on a traversé Berlin, bombardé. Et on a tapé des mains. Enfin, quand on pouvait. Quand on a vu que c'était tout bombardé, on était contents. Et on a traversé le Danemark. Et le père de la reine, là, il nous a attendus avec des buffets. Et a commencé à nous donner des jus de fruits, un peu de manger. Et après, on est descendu du train et on a pris un bateau pour la Suède, à Malmö. Et là, je suis resté 3 mois dans un hôpital. Alors là, on a commencé à me donner à manger petit à petit. 3 mois après, on a pris l'avion et on est arrivé à l'hôtel Lutetia. Et ma mère, la pauvre, nuit et jour, elle attendait à l'hôtel Lutetia, nuit et jour. Alors j'arrive à Lutetia, ma mère... Je passe à côté de ma mère, elle ne me reconnaît pas. Ma sœur, elle l'a reconnue. Alors, ma sœur qui est passée, dit, « Mais maman, tu ne reconnais pas Clara ?»« Mais non !» Écoutez, je suis partie à 14 ans et demi, je suis revenue à 17 ans. Il y a eu un changement dans ma vie. Hein. Les cheveux à peine, ils poussaient à peine comme ça. Et quand je suis rentrée de déportation, j'ai dit à ma mère, moi je veux pas un lit, hein, je veux dormir par terre. Hein. Et je dormais par terre. Mais à un moment donné, ma mère, elle a dit, arrête, je peux plus. Je veux pas te voir dormir par terre. J'ai tout raconté. Ma sœur aussi. On a tout raconté. Tout. Au début, tout à fait au début, je voulais pas raconter. Ma mère, elle me défendait, elle me disait, faut pas parler comme ça. Ne raconte pas tout de même que t'as été torturé et tout ça. Faut pas être mauvais. Et il y en avait qui étaient parvenus. Une sœur, un frère. Et moi, j'étais revenu. Alors écoutez, ça a été très dur pour moi de raconter. Faut pas être dur à tel point. Ma sœur, elle a pas voulu vivre en Europe. En 47, l'ami d'enfance de mon père a écrit à ma mère qui voulait au moins qu'une de nous deux vienne passer un séjour à Rio de Janeiro pour se reposer. Bon, naturellement, ma mère, moi j'étais la plus jeune. Ma mère, elle a dit, on va envoyer Berthe. Ma sœur est partie à Rio de Janeiro en 47. Elle voulait plus revenir. Même venir passer 8 jours à Paris, hors de question. Elle avait la haine de la France. La haine. Mais vous savez, moi j'ai toujours dit, combien de fois je le répète, hein, j'ai toujours, mais comment j'ai pu survivre à un enfer pareil? À tel point j'ai tenu le coup. Bon, c'est vrai, je suis rentré à l'exportation, j'ai eu beaucoup d'ennuis de santé. Beaucoup. J'ai dit, comment est-ce possible que j'ai tenu le coup d'un enfer pareil? Moi, je reviens d'un enfer. Parce que personne ne peut le croire. C'est impossible de le croire. C'est impossible qu'il y ait des êtres humains qui puissent torturer des gens. C'est impossible. On ne peut pas raconter ça à quelqu'un parce que personne ne peut le croire. On ne peut pas croire ça. Moi, si je retourne là-bas, je fais une attaque. Je me connais. Je sais très bien dans l'état que je suis. Je sais que je fais une attaque. Je ne peux pas revoir ça. C'est trop dur pour moi. D'abord, là-bas où on marche, c'est du sang. Il y a du sang partout. Les trottoirs sont remplis. Tout est rempli de sang. Non, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas, vous voyez. On m'a interviewé, ça m'a suffi là-bas. Pour le témoignage, ça a été très dur pour moi. J'ai beaucoup pleuré. J'ai raconté tout, du départ jusqu'à la fin. Ça a été dur, très dur. Après, j'ai regretté parce que j'ai tellement parlé de tout ça que j'étais remué pendant des jours et des jours. Et naturellement, je pleurais sans arrêt. À mon mari, il a dit, t'avais besoin de ça encore? T'as besoin de pleurer encore? T'as pas assez pleuré dans ta vie? Mais ce qui a été fait, a été fait. Malheureusement, c'est comme ça. Et croyez-moi, les gens, ils oublient vite. Bon, nous, les déportés, personne n'oublie. Il n'y a pas une déportée qui peut oublier quelque chose. Ça n'existe pas, même. De toute façon, les déportés, quand on se voit, notre sujet de conversation est la déportation. Parce que, d'abord, on a un lien, les déportés. On s'aime entre nous. La vérité, on s'aime beaucoup, les déportés. Mais on a trop de mauvais souvenirs, vous comprenez? Alors, on est obligé d'en parler. J'en ai perdu des déportés, moi. Beaucoup, beaucoup. Moi, je suis une des dernières, vous savez. Parce que la plupart, celles qui ont été déportées, elles avaient 19 ans, 20 ans. Moi, ma sœur avait 19 ans. J'ai envie de dire aux jeunes qu'ils doivent regarder et lire tout ce qui s'est passé dans le monde juif, qu'on a exterminé 6 millions de juifs. C'est pas rien, 6 millions de juifs. Et ils doivent étudier ça. Ils doivent, dans les écoles, on doit montrer aussi. Il faut montrer. Il faut montrer où on a dormi, il faut montrer les fourches crématoires. Il faut tout montrer. Il faut montrer la marche de la mort, il faut tout montrer. J'ai toujours vécu avec mon passé. Je vis avec les camps. Et je suis même maso, parce que même quand il y a un film qui passe sur l'Allemagne et la déportation, je regarde. Et alors je suis malade pendant 48 heures. Moi, je dois vivre avec ma déportation. C'est ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vive? Je vais penser à quoi?
Thank you.
Cette mini-série de fracas, ne l'oubliez pas, a été écrite et enregistrée par Elisa Azoghi-Burlak, montée par Anna Taïeb. Louise Emerlé était à l'édition et à la coordination. La musique est de Valentin Fayot et c'est une coproduction Louis Média et Pardi Prod. Nous remercions la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation Rothschild pour leur soutien dans la production de cette série. À très vite.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.